Chut ! Oh ! Silence ! Les mots pour le dire. Pas un bruit, bouche cousue, entendre une mouche voler, mais un geste, une mine, une situation et rire. Chut ! Rire sans un mot, comment faire ?
Pascal Paradou.
Quelques borborygmes, deux ou trois onomatopées, un mot de ci, de là, voilà, pourquoi pas plus. Rajoutez un peu de musique au piano et vous avez la bande-son du spectacle de Patrice Thibault, Fair Play, un spectacle sportif dans tous les sens du terme. Bonjour Patrice Thibault.
Bonjour.
Voilà un spectacle labellisé Olympiade culturelle Paris 2024, qui pourtant a été créé il y a 12 ans. Vous aviez du nez.
On a du nez tous les 4 ans, en fait. C'est vrai que c'est un spectacle qui revient à la mode tous les 4 ans, mais qu'on tombe toute l'année, puisque ça parle du sport, évidemment, et plus particulièrement des Jeux Olympiques, mais surtout du corps et dans tous ses états.
Mais vous l'avez adapté, ce spectacle, pour les Jeux Olympiques de Paris, parce que ça commence par exemple avec l'arrivée de la flamme.
Oui, mais ça, il y a toujours eu l'arrivée de la flamme dans tous les cérémonies d'ouverture des JO. Donc ça, non, ça a toujours été. Mais souvent, les gens nous disent, ah oui, mais là, ça fait référence à ça, ça fait référence à ça. Et oui, mais c'est ça, là, quand on est artiste, qu'on fait des spectacles, souvent, on est des fois précurseur de ce qui va arriver. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait quelque chose sur le Tour de France où je vois, c'était il y a très longtemps, dans l'émission de Canal+, avec Stéphane Bern, 20h dispétante, je faisais un coureur cycliste qui se dopait. On m'avait dit, oh là là, mais t'exagères, personne fait ça. Mais quelques années après, tout est sorti. Donc voilà, oui. Mais oui, c'est toujours d'actualité.
Mais c'est vrai que vivant à Paris, cette année, à quelques semaines des JO, forcément, ça fait un déclic, ça fait sens.
Oui, ça fait sens. On va être en plein dedans avec le spectacle. Moi, j'aimerais que beaucoup de sportifs viennent, surtout parce que ça nous est arrivé, notamment à Bayonne, où il y a eu le club 14 de rugby, là, qui, enfin, non, pas le club 14, l'aviron bayonnais qui est venu nous voir, qui faisait partie du top 14 et qui avait adoré. Et pour la plupart, c'était la première fois qu'ils allaient au théâtre. Et leur femme leur disait, mais tu vois que c'est bien le théâtre, on va prendre un abonnement. Je t'avais dit que c'était bien. Ah ouais, mais on pensait pas qu'on allait rigoler autant, que c'était génial. Donc oui, c'est aussi une bonne approche pour ceux qui vont jamais au théâtre, que les enfants aussi. C'est un spectacle familial, tout public. Donc venez les sportifs.
Alors, je parlais du porte-voix qui sert de pas de flamme, mais de flasque.
Il sert à plein de choses.
Oui, il sert à plein de choses. Mais je trouve que c'est un accessoire paradoxal pour un mime, d'avoir un porte-voix.
Oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé.
Oh, quand même.
Non, c'est vrai, on ne me l'a jamais dit. Mais maintenant que vous le dites, c'est rigolo, tiens, c'est marrant. Mais en fait, le porte-voix, moi, je me suis beaucoup documenté sur les premières années des JO, quand ça a été en Europe, en tout cas. Et donc, les gens, avant l'arrivée du micro, ils avaient des porte-voix pour parler au public et pour parler aux sportifs, pour que tout le monde... Donc, en après ça, j'ai trouvé deux magnifiques porte-voix qu'on ne trouve plus maintenant, qui sont des antiquités. Et oui, voilà, je porte la voix, mais de façon un peu détourné aussi à la façon de Jacques Tati aussi, parfois je me suis inspiré, il y a plein de clins d'œil dans le spectacle, mais Tati avec les vacances de Monsieur Hulot, où il y a un porte-voix en gare comme ça, où on comprend rien, donc voilà, c'est aussi des mots, puis bon, c'est un porte-voix qui se transforme en flamme, qui se transforme en récipient pour les chevaux, qui se transforme en plein de choses en fait.
Oui, donc c'est poli, c'est mique, ce porte-voix.
Voilà, c'est ça.
Vous faites beaucoup de sport, Patrice Thibault, dans ce spectacle sur scène. Vous suez beaucoup, c'est sportif, parce que vous faites du foot, de la gymnastique, de l'haltérophilie, de la boxe, du cheval. J'ai pas fait toute la liste, mais c'est mieux qu'un compétiteur de décathlon, par exemple.
Oui, alors, des fois, je me dis qu'en fait, quand je réfléchis bien et quand je vois l'investissement que j'y mets et la transpiration qui est sur le sol, je me dis en fait c'est comme si je jouais un match Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde tous les soirs. C'est ça la différence, c'est que je joue pas une fois par semaine, c'est tous les soirs.
Mais vous êtes sportif ou vous avez été sportif?
J'ai été sportif, ouais, j'ai fait 7 ans de football américain, j'ai fait beaucoup de surf, j'étais très actif. Alors j'étais pas sportif dans le sens où j'étais pas dans un club pendant des années en grande compétition, mais j'ai toujours bougé, j'aime ça, oui c'est sûr.
et tout cela sans vous plaindre, sans un mot.
Non, sans me plaindre parce que, malgré mon âge, des fois ça fait mal, ça tire.
mais sans un mot parce que dans ce spectacle, comme dans tous les précédents spectacles signés Patrice Thibault, ce sont presque des spectacles muets.
Presque, oui. Alors souvent, on dit « ouais, c'est un mime ». Moi, j'aime pas trop le mot « mime » parce qu'au départ, je suis pas mime. Hein. Je suis comédien, j'ai fait des classiques, j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène sur des textes classiques ou contemporains. Mais on va dire que c'est le non-verbal, j'aime bien cette expression, qui me correspond plus, le slastique aussi qu'on utilise, c'est-à-dire ça travaille sur le corps comme pouvait le faire même Louis de Funès, Jerry Lewis, les grands burlesques américains que j'adore, mais Jacques Tati, plus récemment Farid Chopel, Mr Bean, voilà, tout c'est, moi je suis fasciné par ce que peut raconter le corps sans un mot en fait, et puis je trouve que c'est international, je tourne dans le monde entier, donc c'est, voilà.
Il y a quelques mots quand même dans
oui,
le spectacle. Vous avez compté?
Non. Non, parce que j'ai compté ceux de Cocorico, il y en a deux. Il y en a trois.
Donc c'était un spectacle précédent.
C'est un spectacle précédent, il y a
là,
trois.
Là, il y en a
mots.
Un peu plus. Hein, là, il y en a cinq ou six, à mon avis.
Oui, puis il y a un peu du yaourt anglais. Enfin, voilà.
Mais ça vous chatouille d'en rajouter ou
non,
au contraire d'en enlever en disant oh là là, je suis trop bavard ce soir.
Non, je fais au senti avec le public. Bon, c'est quand même un spectacle qui demande, comme une compétition, c'était comme une chorégraphie en fait. Ça demande un rythme vraiment très précis, même musical. Il y a beaucoup de musique jouée. Et par Philippe Lignac, on en reviendra peut-être tout à l'heure, qui est un comédien et musicien extraordinaire. Mais donc, on ne peut pas trop déraper. Donc, je ne me permets pas de faire des improvisations vocales ou non verbales. Donc, c'est assez tenu, hein, parce que c'est vraiment millimétré.
Donc, c'est strict, on en reparlera. Patrice Thibault, vous avez choisi d'user de peu de mots, mais en musique, et notamment dans le rap, c'est l'inverse. Une vingtaine de rappeurs parmi les plus importants du moment, Sofiane Akhenaton, Picbac, Cardi, Fianzo ou Mac Taylor viennent de sortir dans la nuit, donc un peu dans l'urgence, un morceau intitulé « No pasaran » en référence à la chanson antifasciste espagnole. Et il y a de la colère, du vécu et une violence artistique revendiquée.
Les guerres, y'a du monde pour les guider, vite, y'a personne pour les faire. Je peux me cramer pour mes idées libres, je peux me cramer pour mes frères. Le doigt en l'air pour les sistras, c'est news dans l'angle mort. Secoue ces tremblements, fuck le rassemblement. Un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan,
y'a quoi dans le coffre de la Benz, y'a quoi dans la poche de ma veste, tout ça à cause de ma face, mange un contrôle de face. Pour les petits frères on s'inquiète, ils se font tamponner en veste, moi veulent pas la paix mais la guerre, pour ça que les riches ne restent pas.
Y'a je propose un octogone à Bardella, ferme les frontières, mais la dope remontre à de Marbella, quand même, donc, ouais c'est pour ça que je les ken, donc, ouais c'est pour ça que j'ai la peine, donc, tous les jours fuck le RN. C'est déjà, c'est
on n'est pas différent, mais faut différent. Pas différent, mais faut différencier. Lève-toi, va voter, faut pas rester assis. Voir que c'est nous la France, c'est bâtarissons. Voir que c'est nous la France, c'est bâtarissons. Si tes pensées racistes, va les mettre dans ton cul. Ils vont péter un câble, je vais voter à gauche. Mais c'est pas que pour la Lega du Cana. Lega du Cana, ils ont tenté de nous sous-informer. Fais pas genre, t'as pas remarqué là. Je fais la passe que vers la gauche, qu'elle soit en croque, soit en Margiela. Je fais pas le politicien, genre je fais pas trop le Mandela. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baise la mer à Bardella.
Pour être honnête, moi j'ai jamais voté. Je suis de l'autre côté, les gars, je vote pas. Mais bon, je suis très étonné, leur programme me fait pas rigoler. Allez niquer vos mères, Marine et Bardella. Bientôt je me barre de là. Le raciste en pose quand sur la compo, il va marquer les blases de grisou quand t'es Barcola. Anti-RN, façon tu les reconnais. Des affiches déchirées devant le collège. Minant inconscient, j'insultais le FN, mais je comprenais pas c'était quoi le manège. Donc tout le monde veut faire le ménage. La France, tu l'aimes ou alors dégage. Les slogans supportés par des lâches. J'suis qu'un porte-parole des mecs de mon âge.
Y'a eu Kerry avant moi, Hérokin squat avant lui. Après moi, qui viendra? Après moi, c'est pas fini. J'rappe pour les quartiers de Marseille et les banlieues de Paname. J'rappe pour tous ceux qu'on oublie. Dans les villages, les campagnes, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Tu peux demander à mon ex aujourd'hui qui est la plus triste. Les gars, faut se réveiller, quitte à mettre ses deux doigts dans la prise. Parce que l'histoire se répète, ça sent le crâne, mais dans la brise.
No pasaran sur RFI pour faire barrage donc au Rassemblement National, un morceau de 9 minutes 43 pour l'entre-deux-tours de ces élections législatives en France. Alors il y a aussi une tribune signée par plusieurs centaines d'écrivains et d'écrivaines dans la revue Diacritique pour dire leur volonté de vivre dans un monde pluriel et rappeler les racines du Rassemblement, les racines idéologiques du Rassemblement National, façade dédiabolisée du Front National. Dit-il. Il y aura aussi à Avignon une nuit de la résistance organisée jeudi soir dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Patrice Thibault, est-ce que vous pensez que les artistes doivent prendre la parole ou pas?
Moi, je pense que les artistes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je comprends très bien un artiste qui ne voudrait pas parler politique, par exemple, ce qui a souvent été mon cas. Et puis d'autres qui revendiquent... Non, je pense qu'on est... Justement, ce qu'il faut défendre, c'est la liberté. Et donc, la liberté de s'exprimer. Donc, si on a envie de s'exprimer, il faut le faire. Et, et plus particulièrement aujourd'hui, avec ce qui se passe, moi, je suis juste abasourdi de ce vote pour le Front National et sur le RN, on va dire, maintenant. Enfin, on peut toujours le nommer Front National, hein. C'est ancré dans les mémoires quand même. Et voilà, moi je veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais je pense que tout vient de l'éducation. Je pense qu'il y a quelque chose de, faut se rappeler de l'histoire, quoi. Les gens oublient peut-être un peu vite ce qui s'est passé avant, et puis ne pas oublier qu'on est, enfin moi qui voyage beaucoup depuis des années à travers mes spectacles, je m'aperçois que la France est un beau pays avec des valeurs républicaines fortes et qu'il faut les garder et que ça peut très vite. Enfin, ça tient pas grand chose en fait, et donc voilà, il faut faire très attention.
Et vous pensez que la culture peut y laisser des plumes?
Ah ben évidemment, je les ai pas entendus une seule fois parler de culture, pas une fois, sinon de patrimoine. Mais la culture de théâtre, ça, je les ai jamais vus au théâtre. C'est des gens que j'ai croisé, des gens de gauche, de droite, de communistes, enfin tout parti venir discuter avec nous après, pas forcément politique d'ailleurs, mais au moins d'être curieux de ce qui se passe. J'ai jamais croisé quelqu'un du Front National, enfin en tout cas qui est venu m'en parler.
Vous aimeriez être au Festival d'Avignon dans cette nuit de la résistance? Comment ça vous y êtes?
J'y suis presque, puisque j'ai deux spectacles que j'ai mis en scène qui jouent, qui s'appelle Rien, avec la compagnie Monsieur K, et C'est la Vida, la compagnie De Facto d'Aurélien Quairaut, qui sont deux spectacles de danse. Donc je fais beaucoup de mise en scène aussi à côté, et pour le coup, ce sont deux spectacles de danse. Comme je travaille sur le corps aussi, il y a beaucoup de danseurs qui m'appellent pour les mettre en scène.
En tout cas, vous n'êtes pas à Avignon, c'est les spectacles qui y sont, mais pas vous. Vous pourriez y être, vous y avez d'ailleurs été déjà. Ça donne quelle vibration à Avignon pour un artiste comme vous?
J'y ai jamais été pour mes spectacles à moi, puisque ça tourne tellement, j'ai la chance de vendre sans avoir besoin d'aller à Avignon. Mais par contre, j'y ai été il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, avec un spectacle de la compagnie aux Brothers sur les Monty Python. Alors moi, voilà, quand on est juste... Moi, je suis habitué d'être auteur, mais metteur en scène, comédien sur mes spectacles. Donc quand on est juste comédien à Avignon, pour moi, c'est la récréation. Il y a la chaleur, souvent. Voilà, la dernière fois qu'on y était, c'était il y a 2-3 ans, il faisait 42, 45. C'est une ambiance particulière. On se retrouve, c'est aussi l'occasion de retrouver tous les copains qu'on ne voit jamais, parce qu'on est dans le même métier, mais comme les uns et les autres s'invitent, on se dit « Ah ben non, je ne peux pas, je suis en tournée. » Donc c'est aussi l'occasion de se revoir.
Oui, et puis il y a ce contact avec le public qui est direct, très, très physique et très direct. Voilà, c'est-à-dire que vous sortez de la salle et il y a des gens qui vous attendent, qui discutent, vous allez boire un café, vous rencontrez forcément quelqu'un qui a vu votre spectacle, etc. etc. Vous avez beaucoup tourné dans le monde, Patrice Thibault. Est-ce que le geste est un langage universel ou est-ce qu'il peut quand même y avoir des quiproquos sur un geste?
Alors moi, j'avais peur au début. La première tournée, c'était d'ailleurs la première date de tournée qu'on a fait internationale, c'était au Mexique, à Aguascalientes. Et c'était un festival où la France était à l'honneur, ils avaient reçu Cocorico. Et la première question que j'ai posée, je vous dis cet exemple parce que c'est un peu représentatif du geste que vous parlez qui peut être international. J'ai un numéro de majorette. Et donc, je dis à l'attaché culturel de l'ambassade de France à l'époque, j'ai un numéro de majorette, ils connaissent les majorettes? Ah non, si, il n'y a pas du tout de majorette, ils ne connaissent pas du tout. Ah mince, parce que c'est quand même un numéro important. Bon, je le tente ce soir, et puis si ça ne marche pas, je ne le ferai pas demain. Je le fais, ça cartonne, mais cartonne. Je dis, mais c'est pas possible, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de majorette. Ah, mais ils n'ont pas vu une majorette. Ils ont vu le bâtonnier américain dans les fanfares américaines, et comme ils détestent les Américains, ils se sont dit, ah ben oui, quel con, il frime et tout ça avec son bâton. Donc en fait, le geste peut être aussi interprété d'une façon différente suivant les pays.
Mais le rire est universel.
Le rire est universel et surtout, moi quand je fais mes spectacles, je parle de l'humain. Donc en fait, l'humain est universel. Donc quand on parle de la jalousie, de l'amour, de la répulsion, de la haine, tout ça c'est international, ça n'a pas de frontières. Donc sans un mot, quand on raconte tout ça, les gens se reconnaissent forcément.
Et d'un spectacle à l'autre, vous entendez le rire des spectateurs de façon différente? Il peut y avoir une représentation, personne ne rit? Non, impossible.
Oui, si c'est arrivé, mais en France. France. C'est arrivé à Chaillot, au Théâtre National de Chaillot. Les premières Cocorico qui ont toujours été des salles et qui ont explosé de rire, sauf une fois à Chaillot, personne n'a ri. Et j'ai dit à mon compère, bon ben là je crois que c'est même pas la peine de saluer. Et en fait ils sont tous levés et dit bravo, bravo. Donc c'était une espèce de retenue, je sais pas, est-ce que des fois il suffit d'un petit rien, il suffit que quelqu'un au début fasse chut, qu'après le public ils osent plus rigoler. Mais c'est arrivé une fois. Mais autrement oui, les rires sont différents, notamment en Asie, par exemple, tout ce qui est mignon. Par exemple, si vous embrassez, j'embrasse quelqu'un sur le front pendant la pièce, ils font tout le public fait oh, comme des enfants de 2 ans. Le clown, je mets un nez rouge, vous faites ce que vous voulez, un nazi, ils rient tous à partir du moment où vous arrivez avec un nez rouge. Donc, oui, il y a des choses un peu différentes comme ça, mais voilà, bon, mais en général, ça se ressent beaucoup les réactions.
En tout cas, on rit beaucoup en voyant votre spectacle Fair Play, que vous soyez en veste rayée et canotier, en juste au corps ou même tout nu. Avec serviette quand même. Et vous êtes sur scène avec votre complice Philippe Léniac au piano.
Mesdames et messieurs, j'ai de clans ou boîtes.
Fair Play au théâtre du Petit Montparnasse. Là, vous avez à peu près l'intégralité du texte. Hein. Fair Play, ça veut dire quoi? Ça veut dire beau joueur, c'est ça, Patrice Thibault?
Oui, bah, le Fair Play, bon, on utilise le Fair Play en sport, voilà, que je trouve qu'il se perd un petit peu, mais ça dépend des sports. Il y en a plus au rugby qu'au football, par exemple. Bon, bref. Et Fair Play, j'aimais bien parce que c'est Fair Play, c'est jouer aussi, et ça faisait référence aussi à quelqu'un que j'admire qui s'appelait Jacques Tati, qui avait fait un film qui s'appelait Playtime, le temps de jouer, et faire play, voilà, même si on le dit en français, faire play, faire jouer, jouer, faire, jouer et faire. Enfin voilà, moi, ça faisait. Et puis j'aime bien les titres courts, Cocorico, Fair Play, Franito.
Oui, c'est vrai que vous avez le sens du titre, c'est voilà. Souvent un seul mot ou une expression. Comment on est l'auteur d'un spectacle sans mots?
Ben, on est l'auteur grâce à. Parce qu'on est bien entouré aussi, c'est-à-dire que je m'entoure toujours de. Un, voire très souvent deux metteurs en scène, qui sont en l'occurrence pour Fair Play, Jean-Michel Guérin et Jean-Marc Biour, qui sont des acteurs, qui ne sont pas des metteurs en scène. Moi, j'aime travailler avec des acteurs, parce que quand on est acteur et qu'on a le sens du plateau, je trouve qu'on a plus, on dirige mieux les acteurs. Et donc, on est trois à la mise en scène, et avec Philippe Léniac. Et en fait, c'est assez choral, puisque on part d'improvisation. Moi, j'ai une idée générale, je sais à peu près comment ça commence et comment ça finit un spectacle, j'ai des idées très précises là-dessus. Mais après, entre les deux, je laisse ouvert aux improvisations et ouvert à tout. Par exemple, et on peut déborder vraiment pour arriver à, par exemple, dans le Fair Play, je fais une GRS. En fait, c'est parti d'une impro de Jeanne d'Arc. Donc, rien à voir.
Est-ce que vous l'écrivez, ce spectacle? Est-ce que vous dites, je rentre côté court,
non,
je fais
non.
Tel geste, je fais 3 pas, je lève le bras?
Non. Non, on improvise et j'ai une super assistante qui me suit dans les spectacles et qui note tout sans regarder sa machine. Et qui, elle, note, il rentre, il lève le petit doigt de la main gauche, il tourne les yeux vers la... Comme une chorégraphie, en fait, comme un danseur.
Et donc, ces notes qui vous servent de base, après,
pour reproduire ce qui était bien. Ce qui n'était pas bien, on met de côté, on jette. Et dans les notes, on regarde après, ce qui était bien, on garde. Et donc, c'est elle, c'est un peu... Et je tiens pas... travailler avec la vidéo parce que c'est chiant, il faut re-regarder tout ça. Je préfère le truc en direct, quoi, enfin le jouer en direct. Donc on improvise et on prend des notes.
Et pour jouer, vous avez observé beaucoup avant pour faire l'haltérophile, le boxeur.
Je fais que ça. Non, mais je fais que ça. Moi, c'est mon grand-père. Moi, j'ai deux grands-pères qui m'ont beaucoup élevé, en tout cas, parce que mes parents divorçaient tôt. Et donc, c'est plutôt que si ça avait été mon père, il m'aurait montré des sketchs de Coluche, du Café de la Gare. Et mes grands-parents m'ont montré Histoire sans parole, les burlesques américains, Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy. Et en fait, j'ai été éduqué à cet humour-là. Et mon grand-père, il y a notamment un espagnol qui sa passion, c'était de passer sa vie en terrasse de café en dehors du boulot. Et il me disait, regarde celui-là, comment il marche. Je dis, bon, non, c'est pas drôle. Mais si, regarde bien, toutes les trois secondes, il fait un petit truc avec son épaule. Et en fait, il m'a appris à regarder les gens dans le détail et avoir à déceler le moindre petite chose. Quoi.
Patrice Thibault, vous vous inscrivez dans une grande tradition de comiques, dont Jacques Tati, que vous avez déjà cité deux ou trois fois depuis le début de cet entretien. C'est le réalisateur de Mon Oncle, les Vacances de Monsieur Hulot, ou Playtime, et il avait la caractéristique justement de faire des films sans parole ou presque. Écoutez ce qu'il disait à propos de Playtime.
Ce que moi j'aime quand je vois une scène comique dans la rue, ce n'est pas tellement d'entendre le dialogue. Voyez-vous, je trouve qu'une scène comique, lorsque vous êtes à l'intérieur d'une maison et que vous voyez deux messieurs qui sont rentrés dedans avec leur voiture, et que vous n'entendez absolument pas, vous voyez que la rue et les deux voitures et les deux messieurs, et que vous n'entendez pas du tout ce qui se dit, je crois que c'est plus drôle parce que là rentre une part de votre imagination et vous dites, et vous commencez à rire en les voyant, un, faire voir son pare-choc arrière, et l'autre, faire voir son pare-choc avant. Bon. Et je crois que on serait déçu, voyez-vous, sur une scène visuelle drôle, d'entendre le dialogue. Moi, j'aime bien avoir un certain... Ça me sert de bande sonore, un son qui, justement, voit tout un groupe de gens qui rentrent. Alors, j'ai envie d'entendre un grand mouvement qui est donné, en plus, par l'image et également par le son, sans m'arrêter sur une phrase.
Patrice Thibault, vous êtes dans la lignée de Tati.
Ah ben moi oui, c'est tout à fait ça. Et alors, je rebondis sur ça parce qu'il y a quelque chose que je dis souvent quand il parle de l'imaginaire du spectateur. C'est très important pour moi. C'est-à-dire que je préfère suggérer qu'affirmer, parce qu'en fait, quand vous êtes spectateur et qu'on ne vous donne pas toutes les clés ou qu'on vous mâche pas le travail, il y a une part d'imaginaire en vous qui vous fait faire le dialogue dans votre tête. Et c'est toujours juste, en fait. C'est pour ça que je dis souvent quand je fais des ateliers avec des comédiens, laissez le spectateur imaginer un peu ce qu'il veut, parce que pour lui, ça sera toujours juste. Il vous dira toujours après, ah, c'était génial cette scène, j'ai tellement vu ça, et alors que c'est peut-être pas ça que vous avez voulu montrer.
J'imagine que vous ne l'avez jamais rencontré parce qu'il est mort en 82, donc vous étiez un très jeune homme, à peine acteur, Patrice Thibault. Si vous l'aviez rencontré, qu'est-ce que vous lui auriez dit ?
Alors, je l'ai presque rencontré. J'ai rencontré sa fille, Sophie Tatichef, à l'époque quand je suis arrivé à Paris, par l'intermédiaire de Michel Guigon. Et puis après, j'ai travaillé chez Deschamps, chez les Deschiens. Et eux, ils ont racheté, Jérôme Deschamps et Macha Makieff ont racheté les films de Jacques Tati. Donc, j'ai assisté à la restauration de tous les films. On a fait des fêtes, on a fait des spectacles autour des films de Tati. On a monté les marches à Cannes. Et moi, j'ai même revêtu une partie des vrais vêtements que portait Tati dans le facteur de jour de fête, donc c'était très émouvant. Donc j'ai vécu des choses très très proches, mais je l'ai pas connu. Non, mais si je l'avais, je pense que j'aurais été complètement, j'aurais rien dit.
Muet.
non, mais
muet d'admiration.
Bah oui. Puis non, ce que j'aurais aimé faire avec lui, c'est pas le rencontrer, mais boire un café avec lui et puis pas se parler, regarder les gens passer et puis rire des mêmes choses, quoi.
Alors on évoque Tati, mais je crois que vous êtes aussi assez admiratif de Funès. Alors
oui.
Là, on parle d'acteurs marquants du XXe siècle, et même plutôt des années 60-70. De Funès, qui est un acteur très physique, très énergique, comme vous, qui était le roi de la mimique et qui confiait en 81 à Macha Béranger ses propres admirations.
Mes préférés restent toujours Laurel et Hardy, toujours.
Oui, ça toujours. C'est quand, ça l'enfant.
C'est aussi un peu une idolâtrie, un peu comme pour Chevalier. C'est de l'amour, ça. Alors, je leur passe les défauts. Et ils ont eu la chance, ces cochons-là, même Chaplin, c'est qu'il n'y ait pas la parole. Parce que s'ils avaient eu la parole, ils auraient été des bavards comme les autres. Et parce que quand vous ne pouvez pas parler, vous êtes bien obligé de prendre
des gestes. D'exprimer, bien sûr.
Et de loin, sur le trottoir, vous lui faites pour vous dire, quand est-ce qu'on mange ensemble ? Vous savez très bien vous expliquer.
Oui, c'est vrai.
Vous ne criez pas que ça a qu'à 2 heures, 3 heures. 3 heures et demie. D'accord. Puis un poulet. D'accord.
Là, c'est dommage qu'on soit pas en télé parce que les gestes sont super.
Ils ont eu la chance. Voilà. Je le dis un peu avec amertume.
Alors, dans vos films, vous n'aimez pas trop donc le bavardage.
Non, et là, je suis tombé sur un film qui sera encore un peu parlant, mais je cherche à faire un film muet, quelque chose.
Patrice Thibault, est-ce que De Funès était aussi un modèle, sans oui. Le rire de Macha Béranger, hein.
Oui, non, mais bien sûr, pour moi, c'était un génie. comme pouvait l'être Tati. Tati avait ce sens de l'esthétique que peu avaient aussi, c'est-à-dire que, mis à part son humour et son regard sur le monde, il avait une esthétique très forte, que, comme un peintre, comme un artiste. Et Louis de Funès, il avait cette énergie qui est indémodable, c'est-à-dire quand il y a des gamins qui regardent des Funès maintenant, ils revoient des films où les voitures sont plus les mêmes, où c'est un vieux qui joue, et ils sont fans, et ils rient autant ça. Autant il y a des, moi je vois des gamins qui connaissent pas Chaplin, mais ils connaissent tous de Funès. C'est quand même incroyable, parce que ça repasse régulièrement à la télé, et si ça repasse, c'est parce que les gens regardent.
Et c'est pour ça qu'il y a une référence à la grande vadrouille dans votre spectacle Fair Play.
Bah oui,
c'est plein. Là où vous êtes tout nu avec une serviette voilà. Autour de la taille.
Et c'est juste une petite référence de 3 secondes, mais j'adore parce que tous les gens rient et tous les gens reconnaissent la grande vadrouille et sont contents de vivre cette émotion-là, de ce souvenir-là en même temps. C'est vraiment un clin d'œil, mais il y a beaucoup de clin d'œil dans le spectacle, de toute façon.
De Funès qui évoque Laurel et Hardy. On y pense aussi forcément en vous voyant, d'autant que votre compère est plutôt petit et un peu maigrichon, quand vous êtes plutôt grand et, on va dire, baraqué.
Costaud.
Costaud, oui, on va dire ça comme ça.
Ah ben, tout à fait. Mais moi, j'adore jouer sur les contrastes. De toute façon, je trouve que c'est aussi... c'est ce que j'essaie de faire dans mes spectacles. Enfin, c'est pas que j'essaie, c'est que je défends. Moi, je pense que tout est basé sur le contraste. C'est-à-dire que en art, en général, les grands peintres, vous avez sur le gréco, ça va être du bleu, du rouge qui ressort. Voilà. Au théâtre, c'est pareil. Si vous mettez un gros, un petit, c'est Laurel Hardy. C'est le principe de Laurel Hardy. C'est Chaplin pauvre dans une ville de riche. Ça joue que là-dessus. Donc, effectivement, quand j'ai rencontré Philippe avec les dons d'acteurs et de musiciens qu'il avait et les miens, je me suis tout dit, bah, là, ça va le faire. Et le public, à la première image, ça fonctionne.
Quoi. Oui, alors c'est vrai que Philippe Léniac peut à la fois jouer du piano et de la trompette.
Et
c'est
pas
mal.
Et il peut passer sous le piano comme Spider-Man.
Exactement.
Sans trucage.
Sur le physique, vous assumez votre physique. Là, dans ce spectacle, vous assumez, mais alors totalement, en exhibant votre ventre généreux.
Oui, votre bedaine, on peut dire.
Oh, j'oserais pas.
Mais moi, j'ose. Non, j'ai aucun complexe là-dessus. C'est un moment intéressant parce que il y a toujours des gens à la fin qui nous disent, ah là, les femmes souvent nous disent, ah mais mon mari fait ça, mais dans la chambre, vraiment, entre nous, pour rigoler. Des fois, il dit, regarde, j'ai un peu de bourrelet. Et vous, de le voir assumer sur un plateau devant tout le monde, ça fait du bien, ça décomplexe tout le monde. Et c'est vrai que c'est le fair play, c'est aussi un spectacle sur le corps, comme je disais. Et ben voilà, il faut s'accepter comme... Moi, je prends toujours, par exemple, des fois, je vois des femmes bien portantes qui essaient de se cacher, à s'habiller avec des grands trucs noirs, parce que le noir, soi-disant, ça mincit. Et puis à côté, vous voyez une Africaine qui est aussi forte qu'elle, mais qui a hyper coloré, qui redresse le buste, qui met les seins en avant. Mais c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça. Donc, en fait, quelqu'un qui s'assume, quand vous vous assumez, vous êtes plus beau, vous êtes plus heureux et plus accepté, en fait. Donc, c'est aussi ce spectacle, ça parle de ça aussi, de l'acceptation de nos corps, des corps et de l'autre.
Le corps, c'est le cœur du travail, en fait, de votre travail.
Oui. Oui, on peut le dire. Voilà, oui. Mais je travaille le corps avec le cœur.
Est-ce que vous auriez été tenté par faire du cinéma, façon Tati, du cinéma muet?
Oui, alors j'ai écrit 3 scénarios avec 2 producteurs différents et ça n'a jamais donné suite parce que je pense que les gens ont peur. Parce qu'ils me voyaient en scène, ils disaient « Ah, mais c'est génial, il faut faire un film, enfin. » Puis quand j'écrivais sur le papier, ils me disaient « Non, mais ça, c'est pas drôle. » Alors je leur faisais et ils étaient morts de rire. Mais vous voyez, vous riez. Oui, mais parce que tu nous l'as fait. Je dis, mais je ne vais pas vous faire tout le film en mime, tout le scénario.
Mais vous pensez qu'on vit une époque trop bavarde, qui a peur du silence?
Ah oui, moi je trouve que... Enfin, moi qui aime le silence, et même si là je parais bavard...
Mais c'est pas mal, à la radio c'est mieux.
Oui, à la radio c'est mieux. Non, mais je trouve qu'on est trop bavard sur les réseaux sociaux, surtout. Après qu'on soit bavard dans la vie, entre amis, dans un bar, l'échange, la liberté de parole, la liberté de parler, d'échanger des points de vue différents, c'est très intéressant. Mais alors sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Parce que vous dites le moindre truc, tout de coup c'est mal pris, c'est mal interprété... Moi, je mets rien sur les réseaux sociaux, à part mes spectacles et les annonces de séances de mes spectacles.
Chut, c'est fini. La seconde de silence. Merci beaucoup.
J'ai dit merci dans le silence.
Merci Patrice Thibault. Avec Philippe Léniac, vous êtes donc à l'affiche de Fair Play au théâtre du Petit Montparnasse à Paris pendant tout le mois de juillet. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto, à demain.